Amen, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous. Et une fois n'est pas coutume, je commence très tôt le message, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi. Et je peux dire une chose, c'est qu'ici ça sent le feu, mais je pense que là-bas aussi. Non, merci au flambeau de parfumer notre salle, mais une chose qu'ils n'ont pas dit, c'est que normalement les chemises ne doivent pas être lavées. Donc ça c'est un truc important, quand tu as ta chemise, tu ne la laves pas. Et ça montre vraiment que tu es un vrai, quoi. Donc c'est pour ça, si vous sentez un peu le feu, c'est normal. Bon, ce n'était pas le sujet du jour. Ce matin, effectivement, j'ai quelque chose sur mon cœur. J'aimerais commencer une petite ou une courte série sur l'adoration. Et le titre de cette série est celui-ci, « Comment faire grandir mon cœur d'adorateur ». Et vous le savez certainement, mais peut-être c'est bon de le rappeler, je pense qu'il y a des choses qui seront des rappels pour beaucoup. Eh bien, l'adoration, ça ne se résume évidemment pas à ce qu'on peut vivre le dimanche matin. L'adoration, c'est un style de vie. Toute notre vie devrait lui rendre gloire. Mais ce moment qu'on vit le dimanche matin, ce moment qu'on appelle temps de louange, eh bien, c'est une adoration, c'est un temps d'adoration, un temps d'adoration qui est communautaire. Puis c'est bon de le rappeler, ce n'est pas une équipe qui est devant, c'est l'adoration du peuple de Dieu, c'est l'adoration de la communauté qui est là. C'est l'expression de notre louange à Dieu par le chant. Mais alors que je parle d'adorer et de louange, j'aimerais vous poser la question, ou te poser la question ce matin. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est pour toi l'adoration? Qu'est-ce que c'est pour toi la louange? Que fais-tu durant ce temps d'adoration? Est-ce que tu répètes les paroles machinalement? Est-ce que tu penses qu'enfin, après, il y aura le message de la parole? Enfin, c'est ça qui est important, puis il reste moins. Est-ce que tu es en train de penser à ton repas de midi? On dit souvent que, je vais au culte. Je vais au culte. Mais c'est faux de dire comme ça, en fait. Nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu. Et je peux vous assurer que le moment où vous rendez un culte à Dieu, ce n'est pas tellement celui où tu écoutes le message. C'est celui où tu es dans l'adoration. C'est ce moment-là où tu adores ton Dieu, ton Seigneur. Et dans, j'aurais pu citer plein de gens, et il y aura probablement encore plein de choses qu'on va découvrir dans ces prochaines semaines, mais j'aimerais citer notre ami Sylvain Frémont, qui a écrit ce livre « Revenir au cœur de l'adoration ». On le connaît bien, il est proche d'ici, ce n'est pas un adorateur lointain. Hein. Et il a dit ceci, « L'adoration est ni une performance, ni une présentation musicale, ni un exploit artistique. Elle est simplement la réalité de notre relation avec Dieu. C'est avant tout une rencontre avec lui. » Dans un véritable face-à-face, la réponse d'un cœur d'enfant envers l'amour de Dieu son Père, la reconnaissance d'un cœur pour sa grâce et sa miséricorde envers nous. Et j'aime beaucoup cette définition finalement. Oui, c'est la réalité de notre relation. Et mon but dans cette série, ce n'est pas de vous dire « vous avez un problème avec votre relation avec Jésus, il faudrait que vous adoriez mieux, il faudrait que vous adoriez plus ». Ce n'est pas ça que j'ai envie de vous dire du tout. Mais j'ai envie que vous ayez goût, j'ai envie que vous preniez goût, j'ai envie que vous désiriez plus, vous désiriez grandir, goûter, vous délecter dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est sur mon cœur. Je prie pour qu'on ait des temps, des vrais temps d'adoration en fait. Je prie que le Saint-Esprit touche nos cœurs, pas juste les vôtres, le mien avec vous, que notre adoration ne soit pas une démarche intellectuelle, mais que ce ne soit pas un moment à passer, parce que pour certains, c'est peut-être ça, c'est le moment à passer dans le culte, mais le reste, c'est sympa. Ou bien que ce soit juste, c'est le temps prévu dans le programme, ou alors que ce soit le dernier moment pour arriver au culte, les amis. Non, s'il vous plaît. Non. Mais que ce soit une adoration d'un cœur qui est touché par la présence de Dieu. Bouleversé, les amis, bouleversé par qui est Dieu. Une seconde définition, l'adoration, c'est l'activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. Et Paul écrit ceci aux Colossiens. Il dit que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et j'aimerais donc premièrement dire que nous sommes créés dans ce but-là. Nous sommes créés pour adorer Dieu, nous sommes créés pour lui rendre gloire. Et notre louange devrait lui rendre gloire. On verra ensuite que notre louange devrait célébrer sa présence et puis notre louange devrait être continue. Dans Ésaïe 43, Dieu parle en ces termes de ses enfants, de ses fils, ses filles, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Il nous a créés pour sa gloire. C'est important de saisir ça. Et puis Éphésiens 1, 11 et 12, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Pour servir, pour célébrer sa gloire, pour servir à célébrer sa gloire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a créés, c'est pour ça que le Seigneur nous a choisis. Et puis, j'ai été touché par une citation d'un théologien, cette fois américain, ce n'est pas un théologien tout près, mais qui est décédé déjà. Et puis, vous allez dire mais où est le lien, mais vous allez comprendre, j'espère. En tout cas, je vais vous expliquer ça. Edmund Clooney a dit ceci: Dieu a demandé au Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. Dieu les a fait sortir d'Égypte afin de les faire entrer dans son assemblée, dans la grande compagnie de ceux qui se tiennent devant sa face. L'assemblée de Dieu au Sinaï est donc le but immédiat de l'Exode. Dieu amène son peuple dans sa présence afin qu'il puisse entendre sa voix et lui rendre un culte. Et en fait, quand j'ai lu ça, ça m'a parlé parce que moi, j'ai toujours vu les mots de Dieu, hein, laisse partir mon peuple, il faut qu'ils aillent me rendre un culte, comme une excuse que Dieu avait trouvée pour que Pharaon libère son peuple. Il fallait bien, à un moment donné, qu'il laisse partir ce peuple dans le désert. Donc moi, j'ai toujours regardé ça juste comme une excuse, en fait. Dieu a trouvé un moyen de dire à ce Pharaon, ben, laisse-les aller au moins un moment, puis après, il va en guillemets, piéger le Pharaon, puis en fait, ils vont partir pour de bon, ils vont tromper le Pharaon. Puis là, en lisant ça, je me suis dit, mais non, c'est vraiment l'intention de Dieu. C'est vraiment ce qui s'est passé. Dieu ne ment pas. Donc Dieu amène son peuple dans sa présence afin qu'il puisse entendre sa voix et lui rendre un culte. Et nous, c'est pareil aujourd'hui. Nous aussi, on a été libérés de l'esclavage, lavés de nos péchés, pour être dans sa présence, pour lui rendre un culte, pour l'adorer. C'est le cœur de Dieu, c'est son désir. Donc l'adoration et la présence de Dieu sont évidemment liées. La présence de Dieu nous invite à l'adoration. La présence de Dieu nous pousse sur nos genoux. Si Jésus vient maintenant dans sa gloire, il n'y a personne qui peut rester debout. Il n'y a personne. Mais nous, on pense qu'on est capable de rester debout. Et on veut rester debout. Mais le Seigneur veut que sa gloire soit telle, sa présence soit telle, que nous soyons sur nos genoux. C'est ça qu'il attend de notre adoration. Je crois que plus on goûte à sa présence, plus on vit sa présence, plus on expérimente sa présence, alors plus on va l'adorer. Il y a quelque chose de proportionnel à la profondeur de notre rencontre avec Jésus. Il est entré, mais peut-être qu'il est venu souper avec nous, puis j'ai envie de vous dire, mais en fait, à quel étage il est en train de souper? Vous avez une grande maison. Il soupe à quel étage, les amis? Est-ce qu'il est là? Ou il est là dans vos entrailles? Hein, et plus il va te toucher en profondeur, plus ton adoration sera profonde. Je vous invite à le redire avec moi, c'est vraiment très pertinent, très profond, je sais, mais c'est important. Plus il va te toucher en profondeur, plus ton adoration sera profonde. Et c'est bon de réaliser ça. Où c'est qu'il est en train de souper? Est-ce que vous l'avez relayé un peu sur les hauteurs de votre intelligence ou bien vous l'avez laissé descendre? Est-ce que vous avez encore envie qu'il vienne plus profond ou vous pensez qu'il est déjà, Voilà, c'est bon. Il a déjà pris toute la place. Et s'il désire que nous lui rendions gloire, si nous avons été créés pour cela, sauvés pour cela, ce n'est pas parce qu'il a besoin de notre adoration pour se sentir mieux. Ce n'est pas parce que Dieu il est déprimé et puis il a bien envie d'avoir un peu des louanges. Non, bien sûr que non, il n'a pas besoin de ça. Mais notre adoration, elle déclare qui Dieu est, ou elle devrait déclarer qui Dieu est. Et plus tu expérimentes sa présence, plus tu vis sa présence, bah plus tu connais Dieu, plus tu apprends à le connaître. Plus tu le connais, plus tu l'adores. Parce que tu vas voir qu'il est merveilleux. Parce que tu découvres un Dieu extraordinaire, un Dieu d'amour. Et ça t'émerveille. Donc dans l'adoration, on le met à sa juste place, à la première place. Et c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu aime. On lui donne ce qui lui revient. Et on communique au monde qu'il est le seul vrai Dieu. Et là, il se plaît dans les louanges de son peuple. Donc c'est pour ça que nos chants devraient majoritairement être tournés vers qui est Dieu, et pas seulement sur nos besoins du style « touche-moi, bénis-moi », etc. Il y a un équilibre, évidemment. Mais notre louange, notre adoration, elle est d'abord tournée vers Dieu, elle est pour Dieu, et elle déclare qui il est. Je viens lui rendre un culte à lui, l'Éternel, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël qui s'est incarné en Jésus-Christ pour nous sauver. Il y a le pasteur Claude Oud, peut-être vous le connaissez, j'ai eu la chance de le côtoyer quand j'étais au Québec. Il racontait une fois qu'il y a quelqu'un qui est venu à la fin du culte et puis qui lui disait « Allez !» C'est avec l'accent québécois, « Les chants à matin !» Les chants à matin, c'était pas fort, c'était pas bien fort, c'était pas top, quoi, c'était pas bon. C'était pas bon à matin, la louange, l'adoration. Puis il lui a répondu « Mais en fait... c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. » Si t'aimes pas le chant, ça te regarde, mais notre adoration, elle est pour Dieu. C'est à lui qu'on veut plaire. Je lui apporte ma louange, mon cœur, ma reconnaissance pour lui rendre gloire, pour qui il est. Alors nous revenons à la question, qui est-il? Qui est-il pour toi? Mérite-t-il ta louange? Je vous laisse avec ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait évidemment déjà de l'adoration. Dieu était adoré, glorifié, il y avait de la louange, des musiciens. Et j'aimerais, dans la deuxième partie de ce message, revenir sur un épisode important de la vie du peuple, un épisode certainement que vous connaissez, un moment important du ministère du roi David. Et si on parle d'adoration, on parle souvent du roi David, parce que c'était un vrai adorateur, et il n'a pas attendu des trois pour adorer déjà dans les prairies, bergers, petits bergers. Il louait Dieu, il adorait Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu roi? La première chose qui était importante pour lui, c'était évidemment de faire revenir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et l'Arche de l'Alliance, vous le savez, ça symbolise la présence de Dieu. Enfin, c'était vraiment la présence de Dieu au milieu du peuple. Et la première chose qu'il fait, c'est faire revenir l'Arche de l'Alliance. Il a dû s'y prendre à deux fois, on connaît l'histoire. Et puis quand elle arrive à Jérusalem, on peut lire ça dans 1 Chronique 15, versets 28 et 29, il est dit ceci, « Tout Israël fit monter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. » C'était bruyant, je vous assure. « Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. » Juste ça. Alors que voit-on dans ce texte? Donc l'arche arrive, et puis il y a David là au centre. Là. Le gars il est wouh! Il se lâche complètement en fait. Il vit l'adoration à fond. Mais pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Il se réjouit de la présence de Dieu. Il célèbre la présence de Dieu. Et ça c'est une fonction hyper importante de la louange en fait. On célèbre la présence de Dieu. Et David était du coup fou de joie et tout le peuple était avec lui. La présence de Dieu. Célébrer la présence de Dieu. Notre louange, elle devrait célébrer la présence de Dieu. Et encore une fois, je cite Sylvain qui dit « Nous avons plus que jamais besoin de sa présence dans nos vies. » On est d'accord. « Face aux combats, aux tentations, à l'injustice et à l'incompréhension. » Nous avons besoin de reconnaître qu'il est là, qu'il agit dans notre vie et que rien ne lui échappe. Sa présence nous habite lorsque nous l'adorons et que nous lui laissons vraiment toute la place. La louange célèbre la présence agissante de Dieu dans nos vies hier, aujourd'hui même et déjà demain. Mais c'est bien sa présence, de sa présence que nous avons besoin. Et lorsque nous vivons sa présence, il y a des émotions qui débordent. Il y a des choses qui se passent. Notre cœur, notre corps a envie de bouger. Notre bouche aimerait chanter sa reconnaissance. Quand tu vis sa présence, ça bouge, ça déménage. Et ici, David vit complètement ce moment-là. En fait, il n'est pas un roi qui se conforme à un rôle et puis qui reste en retrait, qui reste spectateur, qui a demandé que l'arche lui soit ramenée et puis qui regarde gentiment une petite procession. Puis oh, voilà, c'est bien. Non, il chante, il danse. C'est un adorateur. Il se réjouit au point de subir des moqueries et de recevoir le mépris de la fille de Saül qui ne le trouve pas adéquat. À quelque part, elle dit, mais un roi ne devrait pas faire ça. Mais David, c'était un amoureux de l'Éternel, les amis. Un amoureux de l'Éternel. Le retrouver, reconnecter avec sa présence, le remettre au centre, ça conduit David dans la joie, dans l'adoration. Plus rien d'autre ne compte. Permettez-moi de le dire ainsi, il s'en fout de ce que les gens vont penser. Il s'en fout, David. Il vit la joie de la présence de Dieu. Et toi? Est-ce que la présence de Dieu te réjouit encore? Qu'est-ce qui te retient de l'adorer? Et moi, je le sens des fois le dimanche matin. Je sens qu'il y a encore certains qui se sentent bloqués, en fait. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, en fait. Quand tu loues Dieu pour qui il est, tu t'en fiches, tu regardes les autres. Et il faut absolument que ça tombe, ça. Vous puissiez être complètement libre de louer, d'adorer Dieu pour qui il est. Peu importe s'il dit, oh ben, normalement, quand même, un homme de ce statut-là, il ne devrait pas danser comme ça. Et puis, si vous ne chantez pas tout à fait juste, ce n'est pas grave. Qu'on puisse exprimer simplement notre adoration. Peut-être on a des fois peur de transpirer, hein, ou de transpirer dans nos beaux habits, mais voilà, ça sent le feu, ben ça sent le feu, la transpiration. Peu importe, à un moment donné, je peux vous dire que dans l'Ancien Testament, entre les sacrifices et la chaleur et tout, hein, ça sentait plein d'odeurs différentes. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Peut-être qu'on parle de parfum d'adoration, hein, on s'attend à un truc, une petite odeur sympa, mais peut-être que cette odeur de transpiration qui monte de cœur, qui transpire pour Jésus et qui aime Jésus, c'est plus important que un joli petit parfum. Est-ce que sa présence te touche suffisamment en profondeur pour que tu sois poussé sur tes genoux, pour que ta louange jaillisse comme un cri de joie, un cri de reconnaissance? Et j'aimerais vraiment vous encourager, j'aimerais vous dire qu'on le désire ici aussi en tant qu'équipe pastorale, on désire que ce lieu soit un lieu d'adoration, que ce soit un lieu de liberté, où son esprit puisse agir. Et peut-être pour certains c'est un apprentissage, mais tu peux vivre la louange. Et nous lui offrons un cadeau, un sacrifice de louange ensemble. Il n'y a pas de place pour Mikal ici. Il n'y a pas de place pour Mikal dans le nom de Jésus. Et si, comme je dis, si tu n'aimes pas chanter, réjouis-toi simplement de sa présence. Peut-être proclame qui il est pour toi. Tu peux peut-être pas, t'aimes pas chanter, mais proclame, il est qui pour toi ce Dieu-là? Remercie-le. Prie les paroles des chants qui sont bibliques, qui élèvent Dieu, qui décrivent qui il est. Tu peux juste les prier, ces paroles-là. Pas besoin de chanter forcément. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, si je continue notre texte? David met en place des Lévites pour louer et célébrer Dieu. Et il est dit, donc, un petit peu plus loin, le chapitre suivant, 1 Chronique 16, verset 7, et puis on va lire le 37. C'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et au verset 37, David laissa là devant le coffre de l'Alliance du Seigneur Asaph et ses frères pour qu'ils officient constamment devant le coffre selon l'ordre de chaque jour. Alors j'ai mis la louange devrait être continue, il y a ce constamment qui est là. David, en fait, il met une équipe de louanges en place pour célébrer continuellement la présence de Dieu. Ce n'est pas le but de mettre une équipe de professionnels, puis eux, ils font la louange, puis plus les autres. Mais c'est vraiment cette idée que la louange de Dieu, la présence de Dieu, elle mérite notre adoration tout le temps, toujours. Jésus a dit « Je serai tous les jours avec vous », il l'est. Alors, tous les jours, notre louange peut jaillir. Et entre le verset 7 et le verset 37, en fait, il y a trois textes qui sont des psaumes de David. Et c'est comme si c'est l'instruction qu'il donne pour son peuple. C'est comme s'il leur dit un peu, il leur communique l'essence de l'adoration pour que eux aussi puissent rentrer, qu'ils puissent avoir ce cœur à cœur, que leur cœur d'adoration grandisse. Et on va rapidement lire, je ne vais pas tout lire, j'ai sélectionné bien sûr ces passages. Et dans le premier passage, c'est juste intéressant de voir qu'est-ce qu'il leur dit. Pourquoi il met ces trois textes-là? Pourquoi il met ces trois choses-là? D'accord? C'est comme si finalement on a le message, c'est quoi l'adoration? C'est là. Et il dit, au verset 8, « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. » Voilà ce qu'il dit. Hein, il leur dit, mais louez, chantez. Il leur dit d'apporter une louange qui s'adresse à Dieu pour qui il est. Une louange qui lui rend gloire pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore. Il l'encourage à rechercher la présence du Seigneur au travers de la louange. Et puis dans le second texte, un passage qui correspond au psaume 96, il est dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Donc ici, il étend cette louange à la terre entière. Il leur dit cette louange qui raconte ce que Dieu fait, qui le présente, qui lui rend gloire. Ça, c'est source de salut. Et il encourage encore à venir dans sa présence, à lui offrir notre offrande, à plier les genoux. Je vous ai dit, cette présence de Dieu qui doit nous amener à plier les genoux devant Dieu. Et puis, ce troisième passage qui correspond à des bouts du psaume 106, où il est dit « Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton nom sacré et que nous mettions notre honneur à te louer. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. » Alors tout le peuple dit qu'il en soit ainsi, et il loua le Seigneur. Donc ici, il y a une prière, il y a quand même une louange d'intercession. « Sauve-nous, rassemble-nous, délivre-nous. » Donc c'est juste aussi de demander des choses à Dieu dans notre temps de louange. Mais la louange est une arme, et on le verra la prochaine fois, on parlera de la louange comme une arme, la louange qui ouvre le ciel. On parlera de ça dans le prochain message, mais le but est clair ici, afin que nous célébrions ton nom sacré et que nous mettions notre honneur à te louer. Notre honneur à te louer. Notre honneur, c'est notre réputation, c'est notre dignité morale, notre honneur. Quand on fait des choses sur l'honneur, hein, c'est sérieux quand même. Afin que nous célébrions ton nom sacré, que nous mettions notre honneur à te louer. Et le peuple dit alors qu'il en soit ainsi, et ils vont louer le Seigneur encore, ils vont continuer. Et ils entrent dans cette vie d'adoration qui célèbre la présence de Dieu. Alors comme je l'ai dit, si Christ est présent tous les jours à nos côtés, s'il vit en nous par l'Esprit Saint, alors oui, notre louange devrait être continue. Elle ne devrait pas s'arrêter au petit moment du dimanche matin. La louange, c'est notre réponse individuelle et collective à qui Dieu est et à ce qu'il fait, qui se manifeste au travers de nos paroles et de notre manière de vivre. Donc l'adoration, c'est complet, c'est nous, c'est un style de vie. Alors pour que notre cœur d'adorateur grandisse, notre louange, elle est appelée à rendre gloire à Dieu. Notre louange, elle est appelée à célébrer sa présence. Elle est appelée à continuer au travers de qui nous sommes. Et j'aimerais terminer par ces quelques mots. Plus tu seras conscient de son œuvre pour ta vie, plus tu auras envie de l'adorer. Il y a un verset qui dit, celui à qui on a pardonné beaucoup, il pardonne aussi beaucoup. Hein, ou celui qui a pardonné beaucoup, on lui pardonnera beaucoup. Et moi, je crois vraiment que quand on est conscient de la grâce de Dieu, de la force de l'œuvre de Dieu en nous, alors notre adoration, elle est aussi puissante. Plus tu te rapprocheras de Jésus, plus tu passeras du temps à genoux devant sa grandeur, sa beauté, son amour, sa gloire, plus tu connaîtras Jésus, plus tu l'adoreras. Donc revenir au cœur de l'adoration, c'est peut-être ce que nous sommes appelés à faire encore ce matin. Et on peut se poser encore quelques questions. Vous n'allez pas pouvoir y répondre peut-être toutes, mais c'est cette démarche qui est importante. On rentre dans un temps où j'ai envie de vous encourager, nous encourager en tant qu'Église. Apprenons à adorer, entrons dans cette dimension d'adoration. Quand je dis apprenons, on pense à intellectuel. Vivons l'adoration. Vivons la présence de Jésus. Venons lui rendre un culte. Et ces questions, elles peuvent nous aider, mais à qui ma louange est-elle vraiment adressée, en fait? Est-ce que j'élève Dieu, le nom de Jésus? Quelle est ma réelle motivation pour lui adorer? En fait, je viens au culte, par exemple. Qu'est-ce que je vis dans ce moment-là? Est-ce le fruit de sa présence dans ma vie, le fruit de cette rencontre, de ma connaissance de qui il est? Qu'est-ce qui se trouve vraiment au cœur de ma motivation, de mon adoration? Est-ce que je rends un culte à Dieu pour qui il est, ou est-ce que je viens d'abord pour moi? Alors oui, je vous invite ce matin à revenir au cœur de la louange. L'équipe de louange, elle peut venir justement. Nos lévites, ils peuvent venir. Et puis, on va entrer dans un temps d'adoration maintenant. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse chacun le vivre. Voilà, on est tous, c'est vrai, on est tous différents. On a tous une manière différente de s'exprimer, j'en conviens. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a une manière de faire. Et puis que forcément, si vous n'êtes pas debout, les bras levés, c'est qu'il y a un problème. C'est pas ça mon cœur ce matin. Vous pouvez rester assis, vous pouvez être contrit, il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui compte, c'est est-ce que je rends un culte à Dieu? Est-ce que je l'adore vraiment? Pour qui il est? Est-ce que j'ai saisi pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qu'on va vivre maintenant? Et je vous invite donc à revenir au cœur de la louange, à désirer sa présence, à faire, à quelque part, revenir l'arche au centre et à remettre en place ce tabernacle de louange. Que nos vies célèbrent sa présence, que nos vies lui rendent gloire pour qui il est. Et je vous invite à vous lever pour tous ceux qui peuvent dire amen à ce que je viens de dire, que vous puissiez vous lever. Et je vous invite maintenant simplement à commencer à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu dans la liberté de l'esprit qui nous unit. Commencez à parler à Dieu. Parlez-lui, réjouissez-vous. Dites-lui combien vous l'aimez, combien il est précieux pour vous. On veut entrer dans ce temps d'adoration ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Tous ensemble, on peut y aller maintenant. Seigneur Jésus, gloire.